Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum et nous sommes le mercredi 13 novembre. Semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leur expérience ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot et accompagnée ce soir de Mathieu Cheminal en studio.
Salut Claire.
De Marin Moffret en régie.
Bonsoir à toutes et tous.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Camille Marronnier, co-directrice de l'association Organisez-vous.
Bonsoir.
Alors, enchantée Camille, ravie de t'avoir avec nous ce soir. Nous allons parler de community organizing en détail. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ton parcours, d'où viens-tu et comment en es-tu arrivée à monter ce projet Organisez-vous ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Et ensuite, moi, c'est Camille. J'ai 32 ans. Comme tu l'as dit, là, je suis la co-directrice d'Organisez-vous. Peut-être que je peux vous raconter comment j'en suis arrivée à être là et ça va vous en dire plus sur qui je suis. Moi, ce que je peux dire, c'est que je viens d'un milieu assez privilégié où j'ai pu avoir accès à Sciences Po, donc des études dans une grande école. Et j'ai fait un master en géopolitique qui était passionnant, mais dans lequel je ne me suis pas sentie hyper à ma place. Je pense que je ne me suis pas sentie hyper à ma place pour plein de raisons. Le premier, peut-être globalement un sentiment de manque de légitimité pour les métiers qui étaient censés m'attendre, donc les métiers de la diplomatie avec l'État français en tant que fonctionnaire ou des métiers dans l'humanitaire ou dans des grandes organisations internationales. Et pendant ce master, je n'arrivais pas du tout à me projeter sur ces métiers-là. Je pense parce que, un peu par manque de confiance en moi, je me comparais beaucoup aux autres personnes de ma promo, qui étaient des personnes qui avaient voyagé partout dans le monde, eu plein d'expériences, qui parlaient déjà 50 000 langues rares, et pas moi. Du coup, je me disais, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas pour moi, je n'en suis pas capable. Et aussi, peut-être aussi un manque de légitimité, mais plus moral, de ça ne me convient pas trop, en fait. Typiquement, un exercice type qu'on nous demandait, c'était de faire des mémos ou des briefs le plus court possible, donc en une page si possible, sur des situations hyper complexes où on nous demandait, de savoir comment mieux protéger les civils en Afghanistan, mais tout ça en 500 caractères. Et moi, je me sentais pas du tout capable, mais aussi pas trop légitime de me dire j'ai jamais mis les pieds dans ce pays, je sais pas ce que c'est en fait d'être une personne civile en Afghanistan, et du coup, j'arrive pas à me projeter dans qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça. Bon, quand on est étudiante, c'est normal, mais c'était un peu la posture quand même qu'on attendait dans pas mal d'organisations, de savoir à la place des gens, de décider à leur place. Ça me plaisait pas trop, et du coup, j'ai choisi de pas du tout chercher du boulot là-dedans. Et je me suis retrouvée à chercher du boulot dans l'associatif en France. J'ai travaillé dans une organisation qui travaille encore sur les questions de migration et d'accueil des personnes exilées.
Okay. Et qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Singa.
Ok. Qui est notamment à Marseille. C'est une association nationale, mais ils ont une antenne à Marseille.
Exactement.
Assez dynamique.
Ouais. Moi, à l'époque, je travaillais à Paris, donc sur la création de liens entre des personnes arrivées récemment en France et des personnes françaises. C'était trop passionnant, humainement hyper enrichissant parce que je rencontrais des gens que j'aurais jamais rencontrés, je pense, sans Singa. Mais je me posais aussi plein de questions, de critiques. Il y avait plein de limites à notre boulot. On était plusieurs dans l'asso aussi à se les poser. Et du coup, j'étais en plein questionnement, je cherchais plein de choses. Et c'est là où je suis tombée du coup sur Organisez-vous. Donc je pense que c'est via mes convictions personnelles et mon boulot que je suis tombée sur cet asso. Voilà.
Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert cet asso, ouais ?
Ouais, je me souviens de la rencontre avec l'asso. J'ai participé à un atelier en ligne qui présentait en fait les principes de cette méthode qui est l'organisation collective et qui essayait d'en expliquer les principes. Et en fait, cet atelier qui était animé par le fondateur de l'asso, il m'a trop marqué parce que soit je me retrouvais dans les concepts et les principes qui étaient proposés, soit ça mettait des mots sur des choses que je critiquais un petit peu, mais que j'arrivais pas forcément bien à penser ou à élaborer. Mm-hmm. Peut-être deux exemples là-dessus. Un premier principe du community organizing qui, moi, m'a vachement frappée par rapport au travail qu'on faisait chez Singa, c'est que avoir raison, ça suffit pas. En gros, on gagne pas des luttes et on fait pas changer des lois juste parce qu'on a raison, qu'on le crie très fort ou qu'on le dit de manière magnifique sous plein de formats différents. En fait, on gagne et on fait changer les choses quand on a suffisamment de pouvoir pour pouvoir changer le rapport de force et du coup contraindre la personne ou les personnes qui sont en position de décider, qu'on peut appeler nos adversaires, à changer les choses. Et ça, à l'échelle de Singa, je le voyais, on passait du temps, du soin et de l'énergie à faire des ateliers de sensibilisation auprès du grand public, auprès de fonctionnaires du ministère du Travail, auprès de collaborateurs, collaboratrices d'entreprises. C'était passionnant et je pense qu'on faisait vraiment changer de regard sur la migration. C'était notre objectif. Ça, c'était vrai. Enfin, on ne peut pas nous l'enlever. Mais les lois immigration, en fait, elles passaient les unes plus les autres, de plus en plus dures. C'est là où ces critiques, on les partageait en interne de l'asso. On était hyper nombreux et nombreuses à être désemparés de ça, révoltés, indignés. Et du coup, moi, je voyais un gros décalage entre les méthodes qu'on avait choisies pour essayer de faire changer les choses et les résultats concrets, en gros, notre efficacité.
Ouais.
Et donc ça, c'est un truc qui m'a marqué dans l'organizing et dans Organisez-vous et qui m'a dit « Ah, ça m'intéresse !» Voilà. Et peut-être un autre principe qui m'a beaucoup marqué, que je pense que j'avais déjà conscience, mais qui était martelé de manière hyper forte et importante, c'est le principe d'autodétermination. Donc c'est de se dire que ce sont les personnes les plus directement concernées par les injustices qu'elles vivent, qui sont les mieux placées pour déjà les penser, en parler, les comprendre, les analyser, et après qui sont aussi les mieux placés, enfin qui doivent avoir de manière impérative une place centrale dans les luttes qui les concernent et les revendications qu'elles vont porter. Et que ça, c'est facile à dire sur le principe, je pense qu'on est d'accord, mais que dans plein d'organisations, de collectifs, de luttes de militants, on a beau prôner ça. C'est quelque chose qu'on disait aussi beaucoup chez Singa, notamment en cassant le côté descendant et misérabiliste de un bénévole, un bénéficiaire. C'est déjà ce qui m'avait attiré chez Singa. Mais là, ça allait encore plus loin en disant non seulement on casse ce rapport, mais en fait, c'est aux personnes, là en l'occurrence exilées, de décider pour elles et eux-mêmes la manière dont on doit parler d'exil en France et dont on doit s'attaquer à ces sujets. Et donc ça m'a pas mal... En fait, ça a contribué aussi à remettre en question ma posture, je pense, professionnelle et même personnelle de chargée d'accompagnement à l'époque, de militante, et de me questionner quand est-ce que je suis concernée, quand est-ce que je suis alliée, quand est-ce que j'ai un peu une posture de sauveuse. Et en fait, c'est pas ça, cette posture. Et ça m'a aussi, je pense, rendue légitime dans certains mouvements ou luttes où, en fait, moi, j'étais directement concernée. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'a fait repenser à l'époque de la manif pour tous. Donc ça, c'était encore avant. Mais moi, je suis lesbienne. En 2012, j'étais pas forcément hyper au clair sur mon identité et du coup capable aussi d'en parler à tout le monde à cette époque-là. Mais quand même, je me souviens de non seulement prendre plein de violences en fait de ce mouvement-là qui est hyper homophobe, mais aussi que plein de gens par ailleurs brillants, des proches de ma famille ou des analystes politiques qui analysent pour moi cette situation, ce qu'il faut penser du mouvement, comment on va lutter contre, jusqu'à m'expliquer en gros ce que les personnes homosexuelles ou les personnes LGBTQIA+, avaient besoin ou n'avaient pas besoin comme institution et comme reconnaissance de la part de l'État. Et moi, on me privait en gros de la parole et de mon avis sur la question, alors que j'étais quand même assez légitime pour avoir un avis là-dessus. Bref, du coup, ces deux principes, je pense qu'ils m'ont vachement marqué. Et c'est ça qui m'a fait me dire... ça m'intéresse cette histoire, j'ai envie de m'impliquer quoi.
Moi, la question que je me pose à ce stade en écoutant ton parcours, c'est est-ce que toi tu te considérais comme une personne militante ? Est-ce que tu avais conscience que tu étais, est-ce que tu te considérais comme étant dans la lutte au quotidien ? Ou voilà, tu nous as parlé de ton orientation sexuelle, tu as choisi aussi d'aller travailler chez Singa, donc j'imagine que oui, mais est-ce que toi tu l'avais conscientisé ?
Ouais. Ouais. Militante, c'est pas du tout un mot que j'utilisais. Mmh. Et je pense que c'est un mot qui me faisait un peu peur et que j'estimais ne pas mériter, à mon avis. Je me disais qu'il fallait faire plus, être plus engagée pour ça. Au niveau du travail, j'estimais qu'il y avait un travail énorme, plus radical, plus politique, qui était fait par plein de gens par rapport à moi, mon boulot chez Singa. Du coup, je pense que je ne me considérais pas militante là-dessus. Et même par rapport à d'autres espaces qu'aujourd'hui j'appellerais militants ou bénévoles ou personnels, c'était pas un mot que j'utilisais. Je pense que j'en avais pas besoin. Mm-hmm. Je me disais féministe. Enfin, il y a plein de trucs que j'utilisais, mais pas trop ce mot-là. Un peu aussi par peur d'être jugée ou de pas être à la hauteur, quoi, ouais. De ça.
On en reparlera de cette, ouais. De cette notion. Tu as commencé à nous parler du community organizing, donc de l'organisation collective. Mais est-ce que tu pourrais faire une définition pour nos auditeurs auditrices, s'il te plaît?
Ouais. Alors le community organizing, ça repose sur le constat que quand on se penche sur les grandes avancées sociales, les luttes qu'on a gagnées, par exemple dans l'histoire française, mais ça peut être aussi ailleurs, tous ces avancées sociales, ces changements positifs, ils sont pas arrivés par magie, par miracle. Ils sont pas arrivés par une pente naturelle du progrès, parce que d'année en année, on est de plus en plus progressistes. Ils sont pas arrivés parce qu'un jour, quelqu'un qui était en position de décider s'est levé un matin et s'est dit « Super, le mariage pour toutes et tous, allez go, j'y crois ». En fait, ils sont arrivés parce que derrière, il y avait un travail énorme de plein de choses. De personnes qui se sont étaient suffisamment nombreuses, structurées, organisées pour exercer leur pouvoir collectif, pour pouvoir faire pression et du coup pour pouvoir rentrer un peu dans des rapports de force et porter leurs revendications et du coup contraindre les personnes qui avaient le pouvoir de décider de le faire. Et du coup, tout ce travail de construction de pouvoir collectif, d'être suffisamment nombreux et nombreuses, de se politiser, de comprendre quelles revendications on peut porter par rapport à nos besoins et aux injustices qu'on vit, quelle stratégie on va mettre en place pour les porter, tout ça, c'est un travail un peu de coulisses et d'ombre qu'on peut appeler community organizing ou organisation collective. Mmh. Et du coup, chez Organisez-vous, on choisit d'utiliser la version française du terme parce qu'en fait, on se nourrit beaucoup de méthodes anglo-saxonnes qui s'appellent community organizing, qui sont hyper bien formalisées, pensées aux États-Unis et en Angleterre, notamment parce qu'il y a pas mal de ressources. Par exemple, aux États-Unis, on peut faire un master en community organizing. Mmh. Et donc, nous, on a beaucoup à apprendre de ces pays-là. Mais néanmoins, ça ne nous plaît pas trop d'utiliser ce mot en anglais parce qu'en fait, l'organisation collective, ça existe aussi en France, chez les syndicats traditionnellement, en fait, depuis le 19e siècle. Ouais. Ouais, voilà. Et qui parlaient d'ailleurs, c'est eux qui parlaient du mot organisation. L'éducation populaire aussi, c'est une grande source d'inspiration et c'est pas une, mais des quantités de méthodes et de postures qu'on peut utiliser. Et du coup, on aime bien avec le mot organisation collective le fait qu'il visibilise que ça existe en France, en fait que plein de gens le pratiquent et le font tous les jours, mais juste ils n'utilisent pas forcément ce terme-là parce que c'est pas valorisé, c'est pas visibilisé. Et ça, c'est plus des détails peut-être plus technique ou méthodologique, mais il y a certaines postures de community organizer aux États-Unis qui sont assez rigides dans leur méthode. Mmh. Et du coup, chez Organisez-vous, ça nous intéresse aussi de dépasser ces rigidités-là et de se dire on n'est pas... En gros, on ne pratique pas une méthode qui est une recette de cuisine et qui marche parfaitement. On ouvre des espaces d'échange pour se questionner. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'organisation collective.
Ok, à partir de maintenant, je bannis le mot anglais et je parle d'organisation collective. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle avec cette organisation collective, c'est que c'est quelque part mettre de la stratégie dans ces luttes, mais quelque chose qui peut se faire, enfin, qui se fait de façon consciente et réfléchie avec les méthodes d'organisez-vous, mais elles peuvent aussi se faire de façon inconsciente et de façon organique lorsqu'il y a des luttes qui se montent des sujets dont un groupe de personnes ont envie de s'emparer. Donc moi je trouve ça hyper intéressant qu'on mette de la théorie et qu'on donne aussi des concepts, des méthodes, des outils concrets, et ça on va les aborder plus tard dans l'émission. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'association association en tant que telle. Donc, tu as mentionné le fondateur. Quand est-ce qu'il l'a créé? Combien vous êtes dans l'association? Est-ce que vous avez des bénévoles?
Oui. Alors, Organisez-vous, c'est une association qui est née en 2017 à l'initiative de son fondateur qui s'appelle Jean-Michel Knudsen. Un premier truc qu'il faut savoir sur l'asso, c'est qu'elle est au niveau national. Donc, lui, il l'a fondée depuis là où il habitait, qui était Lille, ou la région lilloise. Et il a toujours eu une dimension, une ambition nationale pour l'association, en disant « je souhaite faire découvrir, visibiliser, partager l'organisation collective en France, valoriser celles et ceux qui le font déjà exactement comme tu dis, outiller, soutenir celles et ceux qui veulent se familiariser avec ça, et réunir une communauté de personnes qui sont organisatrices. » Et donc ça, c'est au niveau national, ce qui explique pourquoi moi, je me suis retrouvée dans cet asso alors que je n'habitais pas à Lille, par exemple. Et du coup, c'est une association qui a toujours été au niveau national, assez petite en termes de salariés. Selon les moments de vie de l'association, il y a eu 1, 2, puis 5 ou 6 salariés. Et là, actuellement, on est que 2. Enfin, on est 2. Donc voilà. Et du coup, bien sûr, il y a aussi des membres, des participants et des bénévoles qui la feront avec nous. Pareil au niveau national. On a certains projets, programmes dont je peux vous parler tout de suite ou après, ouais, qui sont à Marseille, mais pas que. Voilà.
Alors, parle-nous donc de ces programmes. Ouais. Parce que moi, j'avais suivi justement une série de workshops, d'ateliers en ligne. Donc, en fait, vous faites beaucoup de formations et d'accompagnement pour les structures, mais aussi pour les citoyens, citoyennes. Donc, j'avais eu la chance d'y participer. Du coup, est-ce que c'est un peu le même type d'atelier que tu mets en place sur Marseille?
Ouais, c'est un peu ça. En gros, l'association, elle est... On peut dire qu'elle est un peu répartie en 3 étages d'activité. Le premier, c'est vraiment de faire découvrir l'organisation collective, notamment via des récits de lutte. C'est en se penchant sur ces histoires qu'on se rend compte en fait que ça existe déjà et que on a besoin de s'approprier un petit peu ces sujets. Et du coup, on a tout un programme qui s'appelle l'Université populaire des luttes, où concrètement, sur le site, il y a des dizaines et des dizaines d'entretiens, de traductions, d'articles de fond, de fiches de lecture qui parlent de tous ces sujets. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé pour être bénévole. J'ai traduit un texte qui parlait d'organisation collective. Et ensuite, j'ai organisé, donc c'est de l'écrit, mais aussi des ateliers ou des moments plus vivants. J'ai organisé avec plein d'autres personnes toute une journée sur la thématique de la joie militante. Mmh. Et du coup, pendant une journée, on a fait des ateliers et de la réflexion sur les thématiques du burn-out militant, de la culture de nos organisations et de comment on peut créer des espaces qui soient émancipateurs et pas juste... qui répètent les systèmes d'oppression, en gros. Donc ça, c'est un des sujets de l'asso et c'est porté par des salariés et des bénévoles. Voilà. Au sein de l'Université populaire des luttes, il y a ces ressources écrites, mais il y a aussi ces espaces et ces ateliers qu'on fait. En fait, on laisse la liberté à chacun et chacune de les... Il y a des personnes qui vont le découvrir en ligne et puis qui vont l'animer au sein de leur collectif ou dans leur ville. Moi, j'ai animé des ateliers... à Marseille pour faire découvrir plutôt certains outils précis de l'organisation collective. Ça, c'est un peu le deuxième étage de l'association. C'est une fois qu'on a découvert, il y a plein de personnes qui ont envie de se former et d'avoir des espaces en fait, d'échange et d'appropriation de ces sujets-là. Donc il y a des ateliers qu'on appelle les ateliers éclairs. C'est des ateliers d'une heure et demie en visio qui sont des portes d'entrée assez faciles pour découvrir un outil précis ou une posture. De l'organisation collective. Par exemple, on en fait un demain sur toutes les postures et les outils de l'aller vers, qui s'appelle, l'atelier s'appelle Retourner sur le terrain. Donc ça a lieu demain en visio, si ça intéresse certaines personnes. Et voilà, et du coup, après, on fait des formations ou des accompagnements plus longs, et souvent en présentiel, pas en visio. Donc on peut accompagner des associations, des centres sociaux, des syndicats d'habitants, par exemple, des collectifs de quartiers, dans leur réflexion sur les questions de structuration, d'engagement de leurs membres, d'engagement de leurs membres sur la durée, de stratégie, de compréhension des rapports de force pour choisir des campagnes qui sont gagnables, de comment on tient aussi pour organiser toutes ces campagnes et tenir sur la durée, même dans des contextes hyper difficiles. Enfin, tous ces sujets-là, on va les aborder soit sous forme de modules de formation, soit sous forme d'accompagnement. Voilà. Et on a aussi un programme plutôt porté par des bénévoles pour s'approprier ces sujets collectivement. Par exemple, l'année dernière, on a un bénévole qui s'appelle Éloi, qui à Valenciennes a créé un groupe composé de plein de personnes qui venaient de plein d'organisations différentes, certaines salariées, d'autres bénévoles, certains militants ultra-radicaux, d'autres un peu plus institutionnalisés. Et lui, avec une autre personne qui s'appelle Solène, et puis après tous ensemble, ils ont réussi à réunir un groupe d'une quinzaine de personnes, deux fois par mois, je crois, pendant 6 mois, pour aborder tous ces sujets-là, explorer des récits de lutte du territoire, faire un atelier sur, je sais pas, la cartographie du pouvoir, se questionner sur nos pratiques de l'aller vers, pourquoi on ne fait pas de porte-à-porte dans nos collectifs et qu'est-ce que ça changerait si on en faisait, par exemple. Et du coup, ils se sont réunis pour s'auto-former, mais aussi juste pour s'approprier et se questionner là-dessus. Okay. Et ça, ça s'appelle les veillées militantes et c'est un des programmes que moi, j'aimerais construire et proposer à Marseille, mais qui est un petit peu en coulisses là avec deux autres personnes bénévoles qu'on est en train de préparer.
Ok, bon bah hâte d'en savoir plus sur ces ateliers que tu souhaiteras, enfin que vous allez mettre en place sur Marseille. On se fera un plaisir de les relayer lorsque ce sera disponible. Moi, maintenant, j'aimerais bien que tu nous fasses le récit d'une lutte qui illustrerait ce que c'est l'organisation collective. Quand on préparait l'émission off, tu nous disais qu'il y avait beaucoup... On se référait régulièrement à l'histoire, aux luttes passées pour pouvoir expliquer ou en tout cas s'inspirer pour nos luttes actuelles. Est-ce qu'il y en aurait une que tu pourrais nous partager ?
Oui, j'en ai choisi une qui est assez emblématique parce qu'elle est à la fois connue et mal connue et on l'utilise pas mal dans nos différents ateliers Organisez-vous. C'est l'histoire de Rosa Parks, que vous devez connaître, qui met fin à la ségrégation raciale dans les bus aux États-Unis quand même. C'est pas rien comme victoire et comme inspiration pour nous. Et en gros, ce qu'on nous raconte souvent, moi je pense qu'on m'a raconté à l'école et ce dont je me souviens, c'est que Rosa Parks est une femme très courageuse qui un jour en a marre de cette ségrégation raciale qui est vraiment trop injuste. Au lieu d'aller au fond du bus, elle s'assoit au premier rang, elle refuse de céder sa place, du coup elle est arrêtée pour ça, elle est condamnée. Et c'est cet acte courageux qui permet de mettre fin à cette énorme injustice qui est la ségrégation raciale dans les bus aux États-Unis. Et du coup, c'est pas vraiment ça qui s'est passé et c'est super intéressant d'aller dans les coulisses de ça et de voir justement quelles leçons en gros on peut tirer pour nous donner de la force pour nos combats à nous. Et en fait, quand on se penche derrière cette histoire, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a vraiment de la stratégie. L'idée de départ, et je pense l'envie des personnes qui se sont mobilisées là-dessus, c'est tout simplement de mettre fin au racisme et à la ségrégation raciale aux États-Unis, sachant que c'est un sujet multiséculaire. Le racisme, c'est lié à la colonisation, à l'esclavage. Ça existe depuis la création des États-Unis, ça existe depuis des siècles et des siècles dans le monde. Ça a encore des conséquences aujourd'hui. Et du coup, une des premières choses là qu'on peut observer, c'est que cet enjeu énorme, hyper complexe, il a été déjà posé sous la forme d'une revendication claire et précise, donc de quelque chose qui est gagnable parce qu'on a un objectif. Ça, c'est un premier truc qu'on peut voir dans cette lutte qui nous permet de dire si déjà oui ou non elle a marché et de pouvoir célébrer qu'elle ait déjà fonctionné, que ce soit un énorme avancée, bien que le racisme existe toujours aux États-Unis comme ailleurs.
Ouais.
Voilà. Et un autre truc qu'on voit quand on s'intéresse un peu aux coulisses de cette lutte, c'est que, évidemment, c'était pas juste une femme courageuse qui a fait ça toute seule et qui, par son héroïsme, a réussi à faire changer d'avis des personnes qui étaient en position de décider, mais qu'en fait, il y a une vraie stratégie qui est utilisée, notamment parce que elle refuse de céder sa place. 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard, elle est condamnée. Et le jour de cette condamnation, il y a un appel au boycott des bus de Montgomery, en Alabama, là où elle habite, qui est fait. Mmh. Et cet appel au boycott, il est suivi à 90% par la communauté afro-américaine de Montgomery. Ça représente, j'ai noté, 40 000 personnes afro-américaines qui arrêtent d'utiliser les bus.
Et sachant du coup, qu'à l'époque, ils n'avaient pas de réseaux sociaux pour se coordonner. Donc
exactement. Comment ils ont fait ça de manière spontanée, comme ça, du jour au lendemain, par magie. Ouais. Ça, c'est le mystère que plein de personnes, en gros, historiennes ou bien activistes ou quoi, découvrent quand on s'intéresse aux coulisses de la lutte. Et en gros, c'est un plan d'action qui a été créé intentionnellement pour, en gros, créer des crises ou créer du rapport de force. Et là, la crise qui est provoquée, la crise vraiment dans le sens du conflit démocratique, quoi. De se dire que pour changer les choses, il faut changer le statu quo. Et pour changer le statu quo, il faut créer des moments de tension ou de déplacement où il y a des coups à ne pas agir. Et du coup, on va créer un coup à garder le statu quo, quoi. Et donc là, cette première crise, elle est économique. Donc ça représente 40 000 personnes qui arrêtent d'acheter des tickets de bus et qui, ça a des conséquences économiques sur la ville. Il y a aussi, du coup, il y a plein de dimensions. Il y a une dimension aussi juridique. Il y a des avocats qui se saisissent de l'affaire de Rosa Parks pour faire appel à toutes les condamnations à laquelle elle va être emmenée. Enfin, à laquelle elle est condamnée, ce qui va l'emmener jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et le fameux arrêt qui, ça prend un an, donc un an plus tard, juge anticonstitutionnel la ségrégation raciale dans les bus. Okay. Donc c'est une crise juridique, plus une crise médiatique et politique de plein de prises de parole sur le sujet, des journalistes qui font des articles dessus, des élus qui sont interpellés, donc qui sont amenés à se positionner dessus. Mmh. Et en gros, la combinaison de toutes ces crises-là, bah, elle n'est pas arrivée par un miracle. Ça faisait plusieurs mois et même des années et des années que c'était une stratégie qui avait été pensée et réfléchie collectivement. Et avec des essais auparavant qui n'avaient pas forcément tous fonctionné, enfin, en fait avec un long temps de structuration. Mmh. Et ce qu'on voit aussi quand on se penche sur les... sur qui a fait ça, c'est que bah, là je dis on ou je dis il, bah, c'est plus Rosa Parks toute seule, en fait c'est plein de gens qui étaient hyper nombreux. On connaît Rosa Parks, on connaît Martin Luther King qui a été un des porte-parole du mouvement, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont appelé au boycott le lendemain, qui sont descendues dans la rue pour appeler leurs collègues à dire allez on arrête de prendre le bus. Il y a toutes celles et ceux qui ont boycotté, sachant que leur travail, enfin du coup ils avaient besoin du bus pour se déplacer pour aller à leur travail, donc on fait quand même des efforts énormes individuels et collectifs pour se passer de bus pendant plus d'un an. Il y a des chauffeurs de taxi qui du coup ont pris le relais des bus et qui ont cassé leur prix ou qui même ont gratuitement ont déplacé des personnes pendant pareil un an. Okay. Enfin bref, il y a plein de gens. Il y a une personne que j'aime bien qui est vachement invisibilisée dans cette lutte et qui m'importe de citer, qui est Georgia Gilmore. Elle est membre du mouvement et en gros, elle, c'est celle qui va accueillir des réunions politiques dans sa cuisine chez elle et dont la maison va devenir vraiment le QG du mouvement. Et du coup, qui va accueillir et rendre possible le fait qu'après une longue journée de boycott, de galère, de lutte, de combat, on soit bien au chaud, l'estomac rempli à pouvoir parler stratégie. Et elle va aussi pas mal collecter d'argent en vendant des tartes. Donc ça montre derrière comment en fait on a besoin d'être hyper nombreuses, organisées, structurées pour pouvoir bien s'organiser. Et que oui, c'est pas juste des gens qui, de manière bien intentionnée, par magie, se sont mis à travailler toutes et toutes main dans la main pour cette lutte-là. Mais en fait, c'était l'effort d'un syndicat. Donc le syndicat, vous le connaissez peut-être, c'est le NAACP. Okay. C'est du coup le sigle, c'est National Association for the Advancement of People of Colors. C'est un syndicat contre le racisme et pour le droit des personnes de couleur aux États-Unis. Rosa Parks, elle est la secrétaire de l'antenne locale de ce syndicat qui est national. Et en gros, toute cette structuration, cette répartition des rôles, cette stratégie, elle a été pensée pendant des mois et des mois avant ce moment-là, en 1955. Mm-hmm. Et donc ça, c'est pas un truc qui est souvent raconté. On pourrait prendre toutes les grandes victoires qu'on a faites et rejouer à faire ça. On le fait pas mal sur notre site, là, avec les suffragettes en France, avec plein d'autres choses, mm-hmm. petits et grands mouvements. Mais du coup, ça permet un peu de décortiquer c'est quoi les ingrédients qui font qu'en fait, on peut avoir de la puissance collective si on visibilise des choses qui d'habitude ne sont pas valorisées, quoi.
Ouais. Non, l'histoire est fascinante et c'est vrai que quand on parle de la ségrégation aux États-Unis, on pense dans un premier temps à Martin Luther King parce qu'il a été le porte-parole, son discours qui était mémorable. Depuis ces dernières années, on entend plus parler de... Rosa Parks a émergé, mais c'est vrai qu'elle est venue dans un second temps. Et là, de tout ce que tu nous... raconte sur cette histoire avec ce syndicat, toutes ces personnes qui ont contribué, le boycott, c'est vraiment la masse qui a permis de faire changer les choses. Donc super super récit, merci beaucoup pour on a énormément appris avec cette histoire. Je vois le temps qui défile, ce serait pas l'heure de la pause musicale. Est-ce que tu pourrais nous présenter le titre que tu as choisi pour cette pause ?
Oui, j'ai choisi une chanson ou un morceau qui s'appelle Riposte et le sous-titre c'est Tribute to Audre Lorde, donc hommage à Audre Lorde, qui est composé par un tout petit groupe qui s'appelle Dame Chevalier. J'ai regardé en préparant l'émission, Dame Chevalier se définit comme un groupe pop révolutionnaire. Et du coup, c'est une chanson qui reprend un discours d'Audre Lorde, qui est une militante américaine qui s'est battue toute sa vie contre le racisme, contre le sexisme et contre l'homophobie. Et du coup, c'est l'un de ses discours hyper poignants. C'est aussi une autrice, donc elle a écrit plein de choses magnifiques. Et là, c'est une partie de textes qu'elle a prononcés qui sont mis en chanson. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà.
C'est parti, on écoute Riposte de Dame Chevalier.
Everything is going to get worse, okay? You have to accept that. That does not mean don't fight. That means don't think it's gonna be easy.
Sur Radio Galère, vous êtes en direct de l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Vous venez d'écouter Riposte Collective, Riposte tout court de Dame Chevalier, et, un titre choisi par Camille Marronnier, co-directrice de l'association Organisez-vous, une association qui théorise l'organisation collective et qui donne des outils, qui outille les citoyens, citoyennes pour se mettre en action, en mouvement. Dans la première partie, donc, on est venu, on a présenté en détail cette association. Et maintenant, pour la deuxième partie, l'idée serait de donner des outils concrets, des méthodes à nos auditeurs, auditrices, pour qu'elles aussi, elles et eux aussi, puissent se mettre en action. Mais dans un premier temps, je voulais te poser cette question un peu en écho avec l'actualité qui, aujourd'hui, on connaît l'état du monde qui est est de plus en plus préoccupant, avec des gouvernements, enfin des pays qui élisent de plus en plus des personnes d'extrême droite. Est-ce que aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de se mettre en lutte ? Je sais que c'est une vaste question qui est compliquée d'y répondre, mais je trouve que tu peux, enfin je pense que tu peux avoir un regard très intéressant puisque bah tu es Tu traites ces sujets de façon quotidienne, donc forcément tu dois avoir une lecture de l'actualité qui est différente de la nôtre.
Oui, et ben tu m'as prévenu que tu allais me poser cette question et du coup j'y ai réfléchi tout à l'heure. Et le premier truc qui m'est venu en la lisant, c'est que est-ce qu'il est nécessaire d'être dans la lutte ? Que moi déjà un truc que j'ai besoin de dire, c'est que moi j'ai pas de leçons à donner sur qui doit lutter, comment, à quel moment. Déjà moi c'est mon travail de faire ça, donc je parle d'une position où je suis payée pour faire ça, et donc je pense que ça joue aussi sur le fait de dire que je peux pas donner des leçons et dire quoi faire aux gens. Et la lutte c'est pas un métier ou une ligne sur le CV ou un faire-valoir. Pour moi la lutte c'est vraiment les combats qu'on mène pour améliorer nos conditions de vie, parfois pour assurer notre survie, ou en tout cas notre dignité. Et du coup si on le définit comme ça, eh ben, il est nécessaire d'être dans la lutte, mais c'est à chacun, chacune de choisir quand, à quel moment. Y a plein de manières de lutter que moi, je ne vois pas parce que bah, j'ai mes angles morts et mes biais, mais qui sont aussi de la lutte. Et du coup, bah, oui, j'ai envie de répondre oui, mais tout le monde le fait déjà à son échelle et je ne saurais dire aux gens que c'est maintenant qu'il faut lutter plus qu'à un autre moment. Quoi. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord qu'on est dans un moment hyper spécial. Je me suis listé des choses aussi pour préparer la question, en me disant, bah, on est... rien que pour parler de la France, en fait, on constate plein de trucs hyper graves en ce moment. J'ai noté un virage autoritaire là, qui s'accélère et des manquements graves à l'état de droit et du coup une crise démocratique, une répression des libertés associatives et limite de la liberté d'expression. Ça, on le voit beaucoup chez les collectifs ou structures qu'on accompagne, chez Organisez-vous. On voit l'aggravation des inégalités, l'augmentation de la pauvreté, la dégradation des conditions de vie tout simplement des gens qui vivent en France, l'augmentation, je sais pas, des violences envers les personnes LGBT et des discours aussi de violence envers du coup toutes les personnes LGBTQIA+, l'augmentation aussi d'actes et de discours racistes et de racisme dans toutes ses formes, l'islamophobie, l'antisémitisme aussi, pour parler juste de la situation française, mais de la déshumanisation du peuple palestinien qu'on voit dans la manière dont les médias traitent des massacres qui ont lieu aujourd'hui en Palestine et la criminalisation des paroles ou des actes des personnes qui dénonce ça ou les soutiennent. Donc bref, et moi je liste ça parce que là c'est ça qui m'est venu en répondant à ta question, mais c'est pas exhaustif. Moi j'ai aussi mes, je pense mes biens, mais tout ça pour dire que je suis d'accord que la situation elle est hyper grave actuellement et préoccupante. À titre individuel je le sens et ça me touche, et à titre de la position d'Organisez-vous et puis globalement d'être une personne dans ce pays, quoi. Voilà, et c'est là où les mots de Audrey Lorde là dont je parlais tout à l'heure, ils résonnent hyper fort pour moi. En fait, dans la chanson il y a une phrase qui est tout le temps réutilisée, qui a un bout d'un discours qu'elle a fait, qui dit en gros en français, je le traduis en français pour pas vous imposer mon accent en anglais, mais qu'en gros, bah oui, les choses elles vont empirer, ça va aller de pire en pire, et du coup ça veut pas dire qu'il faut arrêter de se battre, ça veut juste dire que ça va pas être facile. Et elle dit ça va pas être facile, ok, avec un espèce de petit ok d'encouragement, de lâchez pas, c'est pas facile, on est avec vous. Moi ça me donne des frissons quand j'écoute cette chanson, et régulièrement je verse une petite larme en l'écoutant, mais à la fois elle me donne du courage, parce que c'est une personne hyper expérimentée, admirable, dont on a beaucoup à apprendre, qui nous donne un petit peu cette leçon, tout ça mis en musique. Et du coup je me dis que oui, c'est le moment où, vu la situation, on a aussi besoin de pas abandonner et de pas lâcher, quoi. Et par rapport à ça, y a des choses que ça me donne et que ça nous donne envie de faire, qui est de pas lâcher et de continuer à essayer, et à surtout s'unir, se rassembler et faire force collectivement. Un autre truc que j'ai noté aussi, c'est que j'ai lu dans dans Street Press hier, dans leur appel à soutien, une phrase qui m'a vachement marquée qui dit « Nous sommes des millions à ne pas vouloir du projet raciste, homophobe et brutal de l'extrême droite ». Et bah ça, c'est vrai. En fait, on est à des millions à être indignés par la situation, à être touchés personnellement, pour des raisons hyper différentes parfois, parfois interconnectées. Mais globalement, on est des millions, en fait, à ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et ça, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est ça qui peut nous donner de la force. Si on parvient à ces millions de personnes à se parler, déjà commencer à se parler, recommencer à se parler, continuer à se parler, à se connecter, à se rassembler et à se structurer, en fait, globalement, on a beaucoup de pouvoir et on a le pouvoir de faire changer les choses. Et déjà, le fait de se parler malgré nos divisions économiques, de genre, raciales, de classe, enfin toutes nos divisions en fait, c'est déjà une énorme victoire. Et ensuite, bah ouais, on dispose enfin de ce pouvoir qui permet de changer les rapports de force. Donc ça a toujours été le moment de le faire, mais c'est encore plus le moment de le faire. Et moi, en tout cas, c'est à ça que je me raccroche pour me donner de l'espoir. Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que, enfin, quand tu parles là, je suis animatrice de la fresque du climat et tu sais qu'à la fin, on présente la courbe du deuil pour présenter les différentes étapes quand on apprend, OK, le changement climatique, c'est ça. Au début, donc, on va être en colère, on va être dans le déni et ensuite, on va se mettre en action et c'est ce qui va nous donner de l'espoir, justement. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de la mise en action qui va permettre d'aller de l'avant et de rendre tout ça supportable, au final. Donc, voilà, moi, je pense qu'il peut y avoir un parallèle à faire sur cette courbe du deuil. En fait, la situation est telle qu'elle est, comme c'était dit dans la chanson, ça va pas aller en s'améliorant, ça va être difficile, ok, mais en fait il n'y a qu'à Faucon. Une des solutions, en tout cas, c'est de se mettre en action, et ça c'est quand même assez clé, je pense. Et alors, donc, bah justement, pour se mettre en action concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels conseils on pourrait donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont concernés par la situation, que ce soit nationale ou à leur propre échelle, dans leur quartier, à l'échelle de la ville? Ils sont entourés de personnes qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs. Quels conseils on pourrait donner à ces personnes qui souhaitent s'organiser pour lutter?
Ouais. Bah, y a sans doute des tas de conseils à donner ou à suivre. Peut-être quelques-uns qui résonnent particulièrement pour moi et qui sont assez importants pour nous en tant qu'organisation là, chez Organisez-vous. Une des choses, c'est le fait de penser ou repenser la culture de nos organisations ou de nos milieux. Donc nos milieux militants, progressistes, enfin on les appelle comme on veut, selon comment on se définit. Mais moi je suis frappée comme dans nos milieux, on a du mal à mettre de l'énergie dans notre culture et le fait de prendre soin les uns des autres et de créer des relations durables entre nous. C'est quelque chose dont on a profondément besoin parce qu'il faut qu'on soit nombreux et qu'on puisse tenir sur la durée si on veut prétendre gagner quoi que ce soit et puis surtout juste améliorer là, au quotidien nos conditions de vie qui ne sont pas faciles. Et pourtant, c'est extrêmement dur de passer du temps et de mettre du soin à l'accueil des nouveaux et des nouvelles, dans un groupe, à leur formation, à la politisation ou à la création d'une pensée politique commune, à la montée en compétences de certaines personnes qui ont besoin d'être soutenues, accompagnées, formées avant de pouvoir participer dans un mouvement, à l'adaptation des conditions d'engagement pour qu'elles soient accessibles à tous et à toutes, même quand on ne dispose pas de confort matériel ou d'un temps libre forcément hyper facilement. Et du coup, et comment aussi on crée des liens de confiance entre nous et des liens de solidarité. Ça, c'est des enjeux hyper clés. C'est des enjeux un peu éthiques, mais aussi hyper stratégiques, parce que si on ne fait pas ça, en fait, nos mouvements, ils s'épuisent. On se crame, on s'engage pendant 6 mois, on se donne à fond, et puis ensuite, on n'en peut plus, on lâche. Et on se retrouve avec plein de petits mouvements hyper éparpillés. On est assez peu nombreux et nombreuses. Moi, je suis hyper, à titre personnel, épuisée par cet éparpillement des forces, auquel je contribue aussi personnellement, parce que moi-même, je mets de l'énergie dans 50 000 trucs, et on n'a pas vocation à tous faire seulement un bloc. Mais en fait, on a vraiment beaucoup à gagner en fait à penser cette culture-là, aussi parce que dans les milieux militants ou progressistes, il y a parfois... non seulement du manque de soins et de considération pour ces sujets-là, mais aussi parfois des ambiances carrément toxiques qui nous empêchent de nous engager. On en parlait un peu tout à l'heure, là, les notions de pureté militante et de comportement et de choses conscientes ou non, qui sont vraiment culturelles. Donc c'est pas le fait d'individus mal intentionnés et malveillants, mais de choses qui sont beaucoup plus diffuses, de postures qui peuvent être hyper en fait, jugeantes, dévalorisantes ou carrément excluantes et hostiles. Moi, je connais des dizaines et dizaines de personnes qui n'osent pas s'engager, comme on dit, enfin, qui ne se considèrent pas engagées et qui aimeraient peut-être rejoindre un mouvement, un collectif, mais en fait, qui ont assez peur parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, pas aussi politisées. Elles ont peur de se faire juger si elles n'utilisent pas les bons mots. Elles pensent qu'elles n'ont pas assez de temps. Enfin, en gros, elles n'osent même pas franchir la porte d'un mouvement, d'un collectif, d'une asso qui leur parle, parce qu'il y a un peu ce truc diffus de pureté militante là, qui nous fait tant de mal. Et en fait, on a un enjeu à être ensemble et à créer des complicités et des alliances. Et pourtant, on a ce phénomène-là. Et du coup, s'intéresser à ces questions de culture, c'est hyper important. Concrètement, bah, y a plein d'outils. Je pense beaucoup les outils de l'éducation populaire. Mmh. Et il y a pas mal de ressources. Il y a pas mal de bouquins. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Lutter ensemble », écrit par Juliette Rousseau, qui parle de la capacité à créer des complicités entre personnes ou organisations qui ne sont pas forcément d'accord sur tout et qui ne sont pas forcément concernées par les mêmes oppressions. Ce bouquin, il est trop intéressant, avec plein de modes d'emploi sur comment être plus inclusif, par exemple, dans ces mouvements. Mmh. Il y a un autre livre qui s'appelle « Joie militante » de Carla Bergman et Nick Montgomery, qui parle de comment on peut créer des espaces qui soient plutôt émancipateurs qu'oppressants, avec ces trucs toxiques là, de pureté militante dont j'ai parlé. Donc voilà, il y a pas mal de ressources. Nous, on a tout un module aussi consacré à ça de formation, mais il y a plein de... On a un dossier, par exemple, qui s'appelle « Lutter sans se cramer » sur notre site, qui est juste accessible là, en ligne quand vous tapez « Organisez-vous » ou « Joie militante ». Et ça, moi, ça m'a fait trop du bien de le découvrir quand j'ai découvert l'asso. Quand j'en parle, je sais que ça peut aider, en fait, de se sentir moins seul vis-à-vis de tout ça. Mmh. Et c'est des enjeux hyper clés, hyper stratégiques, donc je conseille Enfin, on est légitime, en gros, de se poser ces questions-là, quoi. Ouais.
Et on conseille à nos auditeurs, auditrices, de se rendre sur le site d'Organisez-vous pour consulter toutes les ressources qui sont disponibles, parce que c'est vrai que c'est une mine d'or. Il y a vraiment de quoi y passer la journée. Donc ouais, et on mettra toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais sur la pureté militante, de nouveau, je fais le parallèle avec les mouvements écolos où on va, quand on a des paradoxes, quand on a... Enfin voilà, il y a un peu cette injonction à être parfait, à faire les petits gestes du quotidien, à être végétarien, à ne pas prendre l'avion. Et si par malheur on va faire une entorse, on va nous le reprocher. Et donc ça peut mettre une forme de pression aussi sur les actions qu'on met en place au quotidien. Donc je trouvais que de nouveau il y avait un parallèle intéressant à faire entre les deux mondes.
Ouais, et puis ça repose sur une approche hyper individualiste que nos petits gestes comptent avant toute chose. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits gestes qui comptent, mais s'ils ne sont pas pris en considération dans la dimension hyper systémique de l'écologie ou d'autres inégalités sur lesquelles on combat, en fait, ça devient un peu hypocrite de se concentrer là-dessus si l'effort n'est pas mis ailleurs, quoi.
Ouais. Et comme tu disais, quand on préparait l'émission, l'objectif de ces mouvements, c'est de réunir le plus grand nombre possible. Donc en fait, l'idée n'est pas d'exclure des personnes parce qu'elles ne sont pas à la hauteur, parce qu'elles ont des contradictions, mais justement, c'est d'accepter toutes ces les points forts et les points faibles des personnes pour faire masse et être le plus nombreux possible dans la lutte. Ouais.
Après, c'est normal qu'il y ait des espaces qui soient petits, notamment non mixité, où on se retrouve et on est peu nombreux et nombreuses, parce qu'on a besoin en fait de cet espace où on se ressemble, on est traversé par, on est concerné par les mêmes discriminations, et en fait on n'a pas envie d'être dans la pédagogie avec les autres, et heureusement qu'ils existent et ils sont cruciaux. Moi j'en ai besoin à titre personnel dans ma vie, mais en fait ils peuvent pas exister seuls si par ailleurs dans d'autres espaces on crée pas des complicités qui permettent d'être suffisamment nombreux pour derrière pouvoir faire changer les choses, quoi.
Qu'est-ce que tu entends par créer des complicités?
Oui, j'utilise le mot complicité. Je sais pas, je pense que je le tiens justement de Juliette Rousseau, mais il y a plein d'autres personnes qui ont pensé la différence entre alliance et complicité, avec l'idée que on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir porter des revendications communes et du coup se serrer les coudes et se renforcer dans nos revendications. Mais si on partage des intérêts, c'est déjà pas mal. Ou si on soutient les intérêts d'un groupe, d'une organisation ou d'une personne, ça peut faire de nous des complices de sa lutte, notamment en... pour faire la différence avec une posture d'allié. En gros, je ne sais plus qui c'est, mais il y a pas mal de personnes qui ont pensé la différence entre les postures d'allié et les postures de complice, avec l'idée de se dire allié, c'est bien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui le disent, mais qui derrière agissent pas beaucoup, et ça devient un petit peu un étendard de dire qu'on est une ou un allié. Et la posture de complice, elle vient un petit peu dire... être complice, c'est aussi pouvoir prendre des risques et utiliser ces privilèges qu'on a pour faire des choses que d'autres personnes qui peuvent être, par exemple, criminalisées, ne peuvent pas faire. Donc ça vient apporter un petit peu de nuance, mais globalement c'est une notion assez proche de celle d'alliance, quoi.
D'accord, ok, super intéressant, c'est la première fois que je l'entends. aussi je voulais, quand on préparait l'émission, on parlait de la tyrannie de l'urgence et de sortir du temps long. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là, parce qu'on vit dans un monde où tout va vite, les communications sont instantanées, on s'impatiente. Est-ce que par rapport aux luttes, qu'est-ce que ça veut dire la tyrannie de l'urgence ?
Oui, la tyrannie de l'urgence, c'est un concept qu'on utilise beaucoup pour parler du système dans lequel on est, où on est tout le temps en fait en réaction à nos adversaires, que ce soit à titre personnel, on est précarisé parce qu'on est un salarié de l'associatif et qu'il y a de moins en moins de subventions, et du coup on est obligé de passer un temps fou à chercher des subventions, donc on est en réaction en fait à une contrainte extérieure, ou bien à titre plus collectif, on va d'un coup se mettre à faire campagne pour les législatives en urgence alors que c'était pas du tout prévu, et du coup on n'est pas du tout maître, l'agenda politique en gros il est dicté par d'autres personnes qui ont plus de pouvoir que nous et qui sont plutôt dans le camp adverse. La tyrannie de l'urgence, ça peut aussi être l'exemple que je prenais tout à l'heure. On fait partie d'un collectif où on vit dans un squat parce qu'on n'a pas des bonnes conditions de logement. Il y a une énorme tempête ou une grosse pluie. Le squat, il est inondé parce que le logement, en fait, il est hyper insalubre. Et du coup, on passe le week-end ou la semaine ou le mois, en fait, à répondre à l'urgence, en fait, à réparer le dégât des eaux, à pouvoir collecter des vêtements. Et du coup, on est tout le temps en réaction à quelque chose qui n'est pas décidé par nous. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps, en fait, de se poser, de pouvoir... non pas être juste dans la réaction, mais pouvoir... être proactif dans nous, les revendications qu'on a ou dans les combats qu'on a besoin de mener, mais pour nous et pas juste pour réagir en fait à l'agenda politique. Et que toutes les méthodes là dont on a un peu parlé, de créer des cultures relationnelles fortes dans nos organisations, d'aller recruter de nombreuses personnes dans nos organisations, de penser la stratégie collectivement, tout ça c'est très joli sur le papier, mais très concrètement ça prend énormément de temps, et c'est un temps qu'on n'a pas. Et du coup nous, toutes les personnes qu'on accompagne, les collectifs, on est censé se tirailler entre cette tyrannie de l'urgence, une des questions qu'on nous dit le plus souvent, c'est c'est bien joli, mais comment je fais en fait pour faire ça alors que ça demande tant de temps. Ouais. Et donc ça, c'est un truc hyper dur où on n'a pas de solution miracle, mais en gros, sur lequel on se pose pas mal de questions, quoi.
Et puis même de mettre les mots dessus, ça permet de le conscientiser, et donc peut-être des fois prendre un temps, un pas de recul, se déconnecter aussi, ça permet de libérer du temps, j'imagine. Donc ouais, ça, pas de conseils facilement activables, mais juste d'en avoir conscience. Ouais. Ouais, qu'on est dépendant de...
un mot qu'on utilise pas mal aussi dans l'association, c'est le concept de raccourci, de se dire faire des flyers pour un événement et distribuer les flyers, ça va plus vite que d'aller parler à tous les gens de mon quartier pour leur dire si on devait faire un événement dans un mois au centre social, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc il y a une option qui est plus rapide que l'autre, c'est celle de décider seul entre personnes salariées, par exemple, l'événement qu'on va faire un joli flyer et puis aller le distribuer. Ça va plus vite que d'aller parler à tout ton quartier. Mais en fait, c'est un peu un raccourci, parce que peut-être qu'à la fin, le fait de décider seul de l'événement ou bien du prochain projet à mener, ça va pas répondre suffisamment aux intérêts de tout le monde, et du coup on va avoir assez peu de gens, et on va passer un temps fou en fait à chercher à mobiliser les gens, à s'épuiser, mais pourquoi vous viennent pas, pourquoi ils viennent pas, pourquoi ils viennent pas, à organiser de nouveaux événements pour faire parler du projet, et du coup ce temps là on va le passer, mais en fait on aurait pu le passer dès le début à aller toquer aux portes et demander aux gens, le centre social cherche un nouveau projet pour l'année prochaine, qu'est-ce qui vous indigne, qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans votre quartier, et du coup qu'est-ce que vous voulez que ce soit. Donc ça a l'air d'être plus long, mais en fait au final c'est pas forcément plus long.
Et ben c'est justement c'est une perche que tu me tends pour parler d'un autre outil qu'on peut donner à nos auditeurs auditrices, c'est celui de d'aller vers les autres pour là on fait un petit sourire à Mathieu parce que tout à l'heure on parlait d'aller vers en première partie d'émission et c'était pas forcément limpide sur qu'est-ce que ça veut dire aller vers donc là par exemple cette idée de faire du porte-à-porte, d'aller directement parler aux personnes qui sont concernées par les enjeux de la lutte, ça c'est quelque chose qui est terriblement efficace.
Ouais, un outil clé pratiqué par plein d'activistes partout dans le monde, mais en France, et qui est un outil phare de l'organisation collective, c'est vraiment la conversation et la conversation en face à face, en disant pour convaincre une personne de s'engager collectivement avec nous sur des sujets quand même qui concernent sa vie et qui vont demander un effort de ouf et beaucoup de temps. En fait, rien ne vaut de parler seul à seul avec une personne et de comprendre aussi cette notion d'intérêt là dont j'ai parlé. En fait, pourquoi une personne passerait tout ce temps avec nous à s'engager, à militer, c'est parce qu'à la fin, ça va changer sa vie, ça va changer des choses pour elle. Et du coup, de comprendre les intérêts de la personne en accueillant typiquement cette question de « et toi, qu'est-ce que tu changerais dans ton quartier ?» ou bien « qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans ta vie si tu avais le pouvoir en fait, de vraiment changer les choses, de décider ?» Ça, c'est des questions à la fois assez simples, mais qui sont un peu révolutionnaires à poser aux gens. Et le fait d'avoir ces conversations vraiment individuelles, une par une, pour aller comprendre en fait les colères, les injustices, les vécus des gens, et puis construire à partir de la somme de toutes nos colères, nos injustices et nos espoirs, ça c'est assez fort. Mmh. Et du coup un outil clé qu'on utilise, c'est cette notion de conversation, à la fois avec beaucoup d'authenticité et de qualité parce qu'on parle aux gens un par un, mais avec aussi une notion, en gros on essaye de trouver l'équilibre entre cette authenticité là et l'efficacité, parce que pour aller aux gens, parler aux gens un par un, encore une fois ça prend du temps, et donc il existe aussi un peu des méthodes pour essayer de pouvoir s'en sortir même quand on a des dizaines de centaines de milliers de personnes avec qui parler, quoi.
Ouais. Ok, écoute, je vois que cette émission touche à sa fin. On aurait pu en parler encore pendant très longtemps. Et là, je vais te poser la question dont je ne t'ai pas parlé. C'est la question surprise qu'on pose systématiquement à nos invités. Je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. Et te voilà catapulté dans un futur proche, en 2030. Marseille, en 2030, qui a réussi sa transition écologique. Voilà, que vois-tu? Quelles odeurs? Avec qui es-tu? Et quand tu ouvriras les yeux, tu pourras nous raconter ce que tu as vu de ce Marseille en 2030.
Ok, c'est bon, j'ai... Il y a un collectif qui est un syndicat de quartier que j'admire beaucoup à Marseille, qui s'appelle le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement à la Belle de Mai. C'est des personnes qui s'organisent entre elles pour lutter contre l'injustice et pour améliorer leur vie au quotidien. Elles font des campagnes sur plein de sujets. Elles créent aussi des liens de solidarité très concrets à l'échelle de leur quartier. Et du coup, là, si je me projette en 2030, je me dis que dans chaque quartier de Marseille, il y a des syndicats de quartier avec des personnes, des voisins, des voisines, des habitants et des habitantes qui ont des lieux pour se retrouver, pour parler politique, pour porter des revendications si elles en ont besoin, juste pour faire des barbecues ou faire la fête si elles en ont envie, où il y a de la solidarité en cas de coup dur. Et du coup, le fait qu'il y ait ces collectifs un peu partout à l'échelle locale, avec encore mieux, un espace collectif pour se rassembler plus au niveau de la ville. bah, c'est un truc qui me ferait rêver de voir de mes yeux en 2030 à Marseille.
J'adore cette réponse. Merci beaucoup, Camille. On donne rendez-vous à nos auditeurs auditrices sur le site d'Organisez-vous pour consulter les nombreuses ressources, mais aussi pour assister à l'atelier qui aura lieu en visio à quelle heure ?
C'est demain de 12h30 à 14h. Ça s'appelle les ateliers éclairs. Donc, si vous voulez vous inscrire d'ici demain, n'hésitez pas.
En parlant d'ateliers, il y a aussi les ateliers de la Forêt des Possibles qui vont arriver tous les samedis au QG des Écoacteurs. Voilà, j'en profite. L'annonce. Donc ce samedi au QG des Écoacteurs, ça sera à 9h30.
L'annonce est passée. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Bonne soirée.
Plaisir. Bonne soirée.